Eh bien voilà, mes amis, quelqu'un peut-il me dire quelle est la devise de la Belgique? Bah oui, évidemment. Quelle est la devise de la Hollande? Voilà, je maintiendrai en français dans le texte. Oui. Alors, beaucoup plus dur. Quelle est la devise de l'Église? Bien, à ce moment précis de la prédication, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir rester jusqu'à la fin du partage, si vous voulez la connaître. La méditation de ce matin traite de deux sujets indissociables. Le premier est l'unité dans la Bible, l'unité dans l'Église. Le second est comment, par quels moyens pouvons-nous atteindre l'unité dans l'Église? Alors nous nous poserons quelques questions. Quelles sont les qualités que le chrétien devrait posséder afin de maintenir l'unité parmi les frères? Comment nos vies personnelles, en tant que membres d'une communauté, comment nos vies personnelles influencent-elles la perception que le monde a de notre religion, de notre foi? Eh bien, pour commencer, nous allons lire l'évangile de Jean au chapitre 5, versets 19 jusqu'à 24. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et il lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dans ce passage, Jésus nous dit que le Père et le Fils sont un. Rien de ce que Jésus fait n'est fait sans l'accord du Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Voilà le plus bel exemple d'unité dans la Bible. Cet exemple nous est donné par le Père et par le Fils. Le Père et moi, nous dit Jésus, nous ne formons qu'un. Dans une assemblée, il ne doit pas y avoir d'élite. Tous les membres de l'assemblée sont égaux et interdépendants. Chacun apporte sa contribution au bien commun. Alors je répète, nous sommes tous au service les uns des autres. Nous sommes les serviteurs de notre frère, nous sommes les serviteurs de notre sœur. La parole de Dieu nous enseigne et elle nous dit à chacun de nous, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Si nous devons avoir une utilité commune, c'est donc que nous sommes au service les uns des autres. Utilité commune dans l'unité, utilité commune dans la fraternité. Comment atteindre cette unité malgré nos différences? Nous avons tous une personnalité différente. Notre chemin de vie est différent. Vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu et je n'ai pas vécu non plus ce que vous avez vécu. Mes joies, mes peines, mes douleurs sont différentes des vôtres. Que ce soit dans la bénédiction ou dans l'épreuve, notre parcours avec l'Éternel, notre Dieu, notre parcours, notre vécu est différent. Nous avons reçu de la main de l'Éternel des capacités, des dons différents. En un mot commençant, nous sommes différents. Alors oui, vive les différences. Dans sa grande sagesse, Dieu nous a créés chacun unique, avec un plan précis pour chacune de nos vies. N'essayons pas de gommer les différences, parce que ces différences sont voulues par Dieu. Si Dieu avait voulu que nous soyons tous les mêmes, il aurait fait des robots. L'apôtre Paul nous explique que bien que nous soyons des membres différents, nous faisons tous partie d'un même corps, le corps de Christ. Et je lis dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, versets 4 à 7, « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Alors posons-nous quelques questions. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Quel ministère, quelle fonction Dieu veut-il que je remplisse pour l'utilité commune? Pas pour ma gloire, pas pour satisfaire mes besoins, pas pour satisfaire mes envies, mais pour l'utilité commune. Quelles sont les qualités que Dieu désire développer en moi? Quelle est l'utilité commune que Dieu veut que je mette en œuvre pour le bien de la communauté? Alors, cherchons pas midi à 14 heures. Ne cherchons pas midi à 14 heures. Il y a des petits ministères. Il y a des petits ministères qui sont tout aussi utiles que la prédication. Et pour me faciliter la vie et aussi pour ne pas prolonger la prédication trop longtemps, je ne vais vous en citer qu'un. Mais celui-là, c'est un beau. Hein. Celui qui possède le don de compassion est, dans bien des cas, plus utile pour l'unité de l'Église et pour l'utilité dans l'Église que la plus belle des prédications. La compassion et aussi la bienveillance sont des qualités que nous devrions tous cultiver. La compassion et la bienveillance nous incitent à nous soucier du bien-être d'autrui et à agir en conséquence. Ces deux qualités sont plus que de simples idéaux. Elles sont les leviers pour transformer l'Église de Jésus-Christ. La compassion, c'est la capacité à ressentir la souffrance d'autrui et à être motivé à alléger cette souffrance. C'est cette étincelle d'humanité qui nous pousse à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à écouter leur histoire, à partager leur fardeau. Quant à elle, la bienveillance est bien plus qu'une simple attitude positive. C'est une disposition du cœur qui nous pousse à voir en autrui, non pas un étranger, mais un semblable, un être digne de respect et d'amour. La bienveillance se manifeste par des actes de gentillesse, de compassion, de générosité. La bienveillance nous pousse à voir au-delà des apparences. Elle nous pousse à reconnaître la valeur de chaque individu. Au final, elle nous encourage à voir l'autre comme une créature bien-aimée par notre Père Céleste. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important de cultiver ces qualités? Tout d'abord, parce que la compassion et la bienveillance sont des antidotes puissants à l'indifférence et à l'égoïsme qui gangrènent nos sociétés, qui gangrènent nos églises. En nous tournant vers les autres, nous renforçons les liens sociaux, les liens fraternels et créons, par la même occasion, une communauté plus solidaire. De plus, ces qualités ont un impact positif sur notre propre bien-être. Des études scientifiques, sérieuses, ont démontré que les personnes compatissantes et bienveillantes sont généralement plus heureuses et en meilleure santé. Alors, si nous voulons être en bonne santé, maintenant nous savons ce que nous devons faire. Cultiver la compassion et la bienveillance n'est pas toujours facile. Cela nous demande de sortir de notre zone de confort, de se remettre en question, de s'éloigner de ses propres préjugés et de s'ouvrir aux autres. Cependant, les bénéfices sont immenses. J'en ai cité un, notre bien-être, notre santé, mais en agissant avec compassion et bienveillance, nous contribuons à construire. un monde plus juste et plus humain, où chacun se sent valorisé et soutenu, et nos assemblées ne sont pas en reste. Voilà ce que je voulais partager avec vous concernant la diversité des dons dans l'Église, et plus particulièrement la compassion et la bienveillance, qui sont, je le dis et je le redis, qui sont parfois plus utiles que la plus belle des prédications. Alors, mes amis, vive les différences. Puisque nous sommes différents, comment pouvons-nous réaliser cette unité dont nous parle l'apôtre Paul ? Eh bien, nous trouvons une partie de la réponse dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, verset 4, « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Et ça, mes amis, c'est bien envoyé. Comment allons-nous être en bénédiction les uns envers les autres ? Le Seigneur, dans sa grande sagesse, a déjà réfléchi à la question. Ne vous tracassez pas, Dieu sait. Et sa réponse est simple. Dieu te dit, il me dit, unissons nos différences. C'est d'ailleurs ce que nous faisons lorsque nous assistons au culte. Chaque dimanche matin, que nous avons l'occasion de venir, nous unissons nos différences, que ce soit par nos chants, que ce soit par nos prières. Alors, nous n'avons pas tous la même voix. Il y a des gens qui ont une voix grave, d'autres une voix aiguë. Donc, nous n'avons pas tous les mêmes voix. Mais lorsque dans un chant, j'unis ma voix à la vôtre, nous unissons nos différences. Alors, il y a peut-être des anges dans le ciel qui sont plus sensibles et qui se bouchent les oreilles lorsque je chante. Mais, mes amis, je suis sûr et certain qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque deux frères différents s'unissent dans la même louange, quelle que soit leur voix. Alors, un autre exemple. Lorsqu'un frère prie et que je dis « Amen », je fais miennes les paroles de Victor. Je dis « Amen » à Victor. J'unis ma voix à la sienne. Sa prière et mon « Amen » ne font plus qu'un. Un vrai miracle, n'est-ce pas ? Un, nous sommes unis. Juste magnifique. Soyons reconnaissants envers notre Seigneur de nos différences. Ne soyons pas envieux les uns envers les autres. L'apôtre Paul nous donne à réfléchir lorsqu'il dit aux Galates, chapitre 5, verset 26, « Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Mais suivons plutôt le conseil que nous donne l'apôtre Pierre dans sa première épître, au chapitre 2, versets 1 et 2, nous pouvons lire ceci. « Rejetez donc toute malice, toute ruse, rejetez la dissimulation, rejetez l'envie, et enfin, rejetez toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Dans toute assemblée, il y a au minimum un vilain petit canard. Et ce vilain petit canard, il a une particularité. Il n'est pas comme nous. Voire même, il est fort différent de nous. Nous pourrions l'appeler l'autre. Vous savez de qui je parle, l'autre. Ce frère, cette sœur un peu bizarre. Oh, peut-être que chez nous, ça n'existe pas. Bien que... Je me suis en train de me demander si vous n'êtes pas en train de vous dire celui-là quand même, c'est l'autre, et il parle de lui-même. Peut-être que chez nous, ça n'existe pas, mais nous en côtoyons régulièrement, dans notre voisinage, dans notre entourage, et même parfois dans d'autres communautés. L'autre est différent de moi. Si oui, alors, que puis-je apprendre de lui ? Chacun de nous a quelque chose à apprendre de son prochain. Un exemple, lorsque je dialogue avec un frère, et là vous mettez votre nom. Lorsque je dialogue avec un frère, le dialogue que nous avons est une véritable bénédiction. Ce frère m'ouvre des horizons insoupçonnés, des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Quelle richesse que de partager avec un frère tel que lui. Mes chers frères et sœurs, J'ai tellement à apprendre de vous. C'est la différence qui nous enrichit. Et c'est bien la volonté de Dieu que nous soyons différents. En apprenant à connaître l'autre, nous enrichissons notre propre vision du monde et par extension, la vision de l'Église. Que pouvons-nous apprendre de l'autre? Et là, je parle plus précisément, non pas de voisinage, mais de frères et sœurs en Christ. Hein. Que pouvons-nous apprendre de l'autre? L'un peut apprendre la patience, l'autre l'amour fraternel, le troisième la bienveillance. Nous connaissons tous, Galates 5, 22 à 25, le fruit de l'esprit. Il y a dans ce verset des qualités qui parfois nous manquent, qui parfois nous manquent. Écoutons la parole de Dieu qui nous enseigne et nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Alors, ce verset de Galates est une véritable mine d'or pour comprendre la vie chrétienne et le fruit que le Saint-Esprit produit en nous. Premièrement, remarquons que le fruit de l'Esprit est un singulier. Mais ça, nous le savons tous. Il n'est pas écrit « les fruits de l'esprit », mais bien « le fruit de l'esprit ». C'est donc bien un singulier. Le fruit de l'esprit, tel que décrit par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, est bien plus qu'une simple liste de qualités. C'est la transformation intérieure profonde opérée par l'esprit dans la vie du croyant. Chaque fruit intimement lié aux autres contribue à façonner un caractère à l'image de Christ. L'amour, fondement de tout, est l'amour agapé, un amour désintéressé qui cherche le bien de l'autre. C'est cet amour divin qui nous motive à pardonner, même à nos ennemis. Même à nos ennemis. Et ça, vous pouvez me croire, c'est pas facile. Et qui nous pousse à servir notre prochain. De cet amour jaillit la joie, une joie profonde et durable, ancrée dans notre relation avec Dieu. Même face aux épreuves, le chrétien conserve cette joie, fruit de son salut. La joie du salut. La paix qui en découle est une paix intérieure, un calme de cœur qui surpasse toute compréhension humaine. C'est la paix de celui qui est réconcilié avec Dieu. Cette paix permet de cultiver la patience, de supporter les difficultés avec endurance et de faire confiance en la bonté divine. La bonté et la bénignité sont étroitement liées. La bonté se manifeste par un acte de bienveillance, tandis que la bénignité se traduit par une douceur et une compassion, une bienveillance envers tous, même envers ceux qui nous ont offensés. La fidélité est le ciment qui unit toutes les qualités et elle nous pousse à être fidèles à nos engagements, à nos promesses et surtout fidèles à notre Dieu. Et enfin, la douceur et la tempérance complètent ce tableau. La douceur est l'opposé de la colère et de l'agressivité. C'est la capacité à rester calme face aux provocations, face aux aléas de la vie. La tempérance, quant à elle, nous permet de maîtriser nos désirs et de vivre dans l'équilibre. En somme, le fruit de l'esprit est une œuvre d'art divine, façonnée au fil du temps par l'esprit dans la vie du croyant. Chaque qualité en interaction avec les autres contribue à faire de nous des disciples de Christ, capables d'aimer, de pardonner et de servir. En résumé, le fruit de l'esprit, c'est la transformation progressive, et je dis bien progressive, de notre caractère à l'image de Christ. C'est un processus qui demande du temps Et je n'ai pas peur de le dire et de l'effort. Et de l'effort. Mais qui est possible grâce à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est en cultivant ce fruit, ces qualités, que nous devenons des disciples. Et finalement, nous devenons un témoignage pour Christ dans le monde. Alors pourquoi est-ce important ?
Connaître,
identifier les attributs du fruit de l'esprit nous permet d'évaluer notre croissance. À quel endroit nous situons-nous ? Alors je m'explique. Si nous constatons que certaines de ces qualités de l'esprit sont absentes ou faibles dans notre vie, nous devons prier Dieu pour qu'il nous aide à les développer. Le fruit de l'esprit est un témoignage pour le monde. Et je pense que c'est ce qui fait défaut à l'Église contemporaine. C'est le témoignage par notre comportement, par la façon dont nous vivons. Finalement, c'est ce que le monde voit qui entre en conflit entre l'annonce de l'Évangile et la vie que nous menons. Lorsque nous manifestons ce fruit, toutes ces qualités que nous avons lues tout à l'heure, nous attirons les autres à Jésus-Christ. Le fruit de l'Esprit interpelle les gens du dehors. À tout le moins, c'est ce que je crois. Il pose question, il fait réfléchir, il suscite une réflexion chez les non-chrétiens. En cultivant l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, nous créons des relations plus harmonieuses avec ceux qui nous entourent. En conclusion, les versets de Galates 5, 22 nous donnent un modèle idéal à suivre, un maître étalon. En manifestant le fruit de l'Esprit, nous devenons de plus en plus semblables à Christ et nous contribuons à la construction du royaume de Dieu sur cette terre. Alors je termine par quelques réflexions qui, je l'espère, nous feront réfléchir, et moi le premier, évidemment. Concilier le fruit de l'esprit avec les difficultés de la vie peut sembler paradoxal, mais c'est en réalité le cœur du christianisme. Je voudrais rappeler que le fruit de l'esprit n'est pas une perfection instantanée. Ne nous décourageons pas. Mais c'est un processus. Parfois un processus long, très long. Il peut prendre une vie tout entière. Dans cette vie, nous ne deviendrons pas parfaits. Je ne pense pas. Mais nous pouvons progresser chaque jour en nous appuyant sur la grâce de Dieu. Les difficultés que nous rencontrons sont souvent des occasions de nous faire grandir et de faire grandir ce fruit qui est déjà partiellement en nous. Les difficultés que nous rencontrons tout au long de notre vie ne sont pas des impasses. Ce sont plutôt des tremplins. Des tremplins vers une croissance spirituelle. La vie chrétienne est un chemin parsemé d'embûches, parsemé d'épreuves, parsemé de difficultés. Chacune est une occasion unique de grandir et de nous rapprocher de Dieu. Entourés de frères et sœurs en Christ, nous pouvons nous encourager mutuellement et grandir dans notre foi. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous nous réunissons. Nous nous réunissons pour nous encourager mutuellement, pour grandir dans notre foi. La croissance spirituelle est un processus qui implique à la fois une relation personnelle avec Dieu, une vie de prière. Il faut s'arrêter, parler à Dieu et une participation active dans la vie de l'Église. Alors je termine. Avant de nous quitter, je voudrais que nous nous posions cette question. Elle est longue. Comme ça, ce n'est qu'une question. Quelle facette du fruit de l'esprit puis-je demander à Dieu de développer en moi pour mieux faire face aux situations que nous allons rencontrer jusqu'à la fin de notre vie? Quelle facette du Saint-Esprit puis-je demander à Dieu de développer en moi pour l'unité de l'Église. Et je termine par cette phrase, notre devise, et je voudrais peut-être que nous l'ayons comme leitmotiv jusqu'à la fin de nos jours, nous ne sommes pas là pour nous comparer, mais pour nous compléter et finalement vivre les différences. Amen. Prions. Père éternel, nous voulons te servir. Nous voulons te servir au sein de notre paroisse, au sein de cette famille que tu nous as donnée. L'Église de Blegny, l'assemblée dans laquelle nous nous trouvons, a besoin de notre aide. Seigneur, nous voulons répondre présent, avec nos faibles moyens. Nous venons à toi avec nos 5 pains et nos 2 poissons. Nous te les apportons, c'est tout ce que nous avons. C'est tout ce que nous avons, Seigneur, mais ils sont à toi. Ils sont à toi pour ton service. Seigneur, viens à notre aide. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, nous voulons témoigner de ton amour envers nos frères et sœurs. C'est ce que tu nous demandes. Tu nous demandes d'acquérir de la compassion et de la bienveillance. Tu nous demandes de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Père éternel, nous te demandons d'être témoin de notre Seigneur Jésus dans nos familles, dans notre entourage, dans le monde. Amen.